إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous sommes entrés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois béni de Ramadan, ce mois immense qui est le mois du Coran. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Le mois de Ramadan est donc un mois propice à la lecture du Coran ainsi qu'à sa méditation. J'ai donc choisi pour ces assises que l'on se réunisse afin de méditer ensemble sur les récits du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet révélé dans son noble livre de nombreux versets dans lesquels sont mentionnés des récits au sujet des communautés qui nous ont précédés, parmi les croyants et les mécréants. Et il est important de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas mentionné ces récits sans but. Et il ne nous a pas mentionné ces récits seulement pour nous informer de faits historiques qui se sont produits par le passé. Mais l'objectif à travers la mention de ces récits est avant tout que l'on médite sur cela, afin d'en tirer des leçons et des enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de la méditation de son noble livre, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Coran, ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Comme vous le voyez, ce verset nous indique que ceux qui se détournent du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils le méditaient comme il se doit, le Coran les orienterait alors vers tout bien, et les préviendrait contre tout mal, et emplirait leur cœur de foi. C'est pour cela que le diable et ses alliés, parmi les djinns et les hommes, font tout leur possible pour nous détourner du Coran, pour nous détourner de sa lecture, et pour nous détourner également de sa méditation. Car la méditation du Coran est une des plus grandes causes te permettant d'augmenter ta foi. Et c'est également une des plus grandes causes qui te permettra, bi'idhnillahi ta'ala, de rester ferme sur la religion de vérité. Il convient donc à chacun d'entre nous de méditer sur le Coran de manière générale. Et dans ces assises, nous allons plus particulièrement méditer sur ces récits et ce qu'ils contiennent comme leçons et comme enseignements, qui nous permettront, bi'idhnillahi ta'ala, de raffermir notre foi et de connaître la voix des gens de la vérité, qui n'est autre que la voix des prophètes et des messagers qu'il nous incombe d'emprunter. Et en méditant sur ces récits également, tu vas connaître la voix de laquelle nous devons nous écarter, qui n'est autre que la voix des gens du faux parmi les mécréants et les polythéistes qui se sont opposés aux messagers. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans son noble livre, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour raffermir ton cœur. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقَّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Et dans cette sourate est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc informé très clairement dans ce verset que la mention des récits des messagers a pour but de raffermir nos cœurs et de les apaiser. L'objectif est donc de nous donner des exemples à suivre, des exemples en termes de patience, des exemples en termes de cheminement sur le droit chemin, mais aussi de nous avertir contre la voix des gens du faux parmi les mécréants et les polythéistes. Ces récits sont donc une exhortation, car, en tant que croyants, nous allons en tirer des leçons, inshallah ta'ala. Et c'est aussi un rappel, car il nous rappelle quelles sont les choses mauvaises desquelles nous devons nous écarter et quelles sont les choses aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala auxquelles nous devons nous appliquer. Et j'attire votre attention ici sur le fait que l'objectif de ces assises n'est pas de mentionner la vie des prophètes de manière détaillée, Mais nous allons simplement méditer sur certains passages du Coran dans lesquels leurs récits sont mentionnés. Nous allons commencer pour cette première assise à méditer sur le récit de la création de notre père Adam alayhi salam, que l'on retrouve à partir du verset 30 de Sourate Al-Baqarah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton Seigneur dit aux anges: je vais établir sur terre un calife. Allah subhanahu wa ta'ala commence ici à mentionner le mérite de Adam, le père des hommes, le père de l'humanité. Lorsqu'il décida de le créer, subhanahu wa ta'ala, il informa les anges qu'il allait établir sur terre un calife qui succéderait aux créatures qui l'ont précédé et dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance. Les anges dirent alors: Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Vas-tu y désigner quelqu'un qui sèmera la corruption, c'est-à-dire qui commettra des péchés et répandra le sang? Les anges dirent cela en pensant que les hommes parmi les descendants d'Adam sèmeraient la corruption sur terre et y commettraient des péchés, à l'exemple du meurtre et autres parmi les péchés. Ils ont donc purifié Allah subhanahu wa ta'ala de cela, en rappelant qu'en ce qui les concerne, ils se consacrent à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Ils ont donc dit: Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Alors que nous sommes là à te purifier par ta louange et à te glorifier. En effet, les anges glorifient Allah subhanahu wa ta'ala et sont constamment dans son adoration et son obéissance. Ils sont parés de nobles comportements, comme l'amour et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sont exempts des comportements vils et méprisables. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit alors: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, je sais au sujet de ce successeur ce que vous ne savez pas. Les propos des anges étaient une supposition, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toutes choses parmi les choses apparentes et cachées. Et il sait que le bien découlant de la création de ce successeur est bien plus abondant que ce qui pourrait en découler comme mal. En effet, il suffit comme bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait choisi parmi ses créatures des prophètes, des messagers, des véridiques, des martyrs et des vertueux. Et cette création fit apparaître clairement les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures, ainsi que différentes formes de servitude et d'adoration qui n'auraient pu se concrétiser sans la création de ce successeur. Mais également, cela fit apparaître clairement les penchants bons ou mauvais des créatures, qui apparaissent par leur mise à l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala distingue ainsi ses alliés de ses ennemis parmi les alliés du diable et de son parti. Donc, étant donné que la parole des anges sous-entendait qu'ils avaient plus de mérite que le successeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait établir sur terre, Allah a voulu leur démontrer le mérite de Adam, ainsi que la sagesse de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala a donc honoré Adam en le créant de ses mains et lui a enseigné les noms de toutes choses. Il a dit subhanahu wa ta'ala: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Et il enseigna à Adam tous les noms, c'est-à-dire les noms de toutes choses ainsi que leur sens. Puis il les présenta aux anges, c'est-à-dire qu'il présenta aux anges ces choses en guise de mise à l'épreuve. Allait-il ou non savoir les noms de ces choses? Et il leur dit: Informez-moi des noms de ces choses si vous êtes véridiques, c'est-à-dire si vous êtes véridiques dans votre prétention à être supérieur à Adam alayhi salam et avoir plus de mérite que lui. Informez-moi donc du nom de ces choses. Les anges répondirent alors: Subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. Ils dirent: pureté à toi, nous n'avons aucun savoir en dehors de ce que tu nous as enseigné. C'est certes toi, al-'alim al-hakim, l'omniscient, le sage. Ils ont donc purifié Allah subhanahu wa ta'ala de toute contestation et de toute transgression de ses ordres. Et ils ont dit: nous n'avons aucun savoir en dehors de ce que tu nous as enseigné. C'est-à-dire que ce que savent les anges, tout comme ce que l'homme sait et détient comme science, ce n'est qu'un don d'Allah subhanahu wa ta'ala et une grâce de sa part. Celui qui a de la science, il ne doit pas s'enorgueillir, Il ne doit pas se sentir supérieur à celui qui ne sait pas. Mais il doit plutôt faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a permis d'apprendre et d'avoir connaissance de ce savoir que d'autres ont ignoré. Donc les anges, ils ont reconnu leur ignorance à ce sujet. Et ils ont renvoyé le savoir à Allah subhanahu wa ta'ala et ont dit « Innaka antal alimul hakim » Certes, c'est toi, l'omniscient, le sage. Al-alim, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est traduit ici par l'omniscient. Et il désigne celui qui cerne toute chose par son savoir, au point où rien ne lui échappe, ni dans les cieux ni sur la terre. Pas même une chose du poids d'une fourmi, ou plus grand ou plus petit encore. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait parfaitement toute chose, même ce que renferment nos poitrines. Et Al-Hakim, c'est aussi un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est traduit ici par le sage, qui désigne celui qui possède la sagesse parfaite, à laquelle aucune créature et aucun ordre ne peut se soustraire. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala crée une chose, c'est pour une sagesse. Et lorsqu'il ordonne une chose, c'est aussi pour une sagesse. Il se peut que nous ayons connaissance de cette sagesse, et il se peut que nous l'ignorions. Les anges ont donc reconnu le savoir et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que leur incapacité à connaître la moindre des choses sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, car tout ce qu'ils savent, c'est Allah qui leur a enseigné. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. » Ô Adam, informe-les de ces noms, c'est-à-dire informe les anges des noms des choses qui leur ont été exposées et qu'ils ont été incapables de connaître. « Falamma amba'ahum bi asma'ihim. » Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, lorsque Adam a informé les anges des noms de ces choses, les anges ont alors su avec certitude que Adam alayhi salam était supérieur à eux. Et ils ont ainsi compris la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala quant à l'établissement de ce successeur sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit alors « Alam aqul lakum inni a'lamu ghayb as-samawati wal-ard wa a'lamu ma tubadun » وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Ne vous ai-je pas dit que je connais les secrets des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez ainsi que ce que vous cachez. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, il est al-alim, il détient le savoir parfait. Rien ne lui échappe. Même ce que renferme ta poitrine, il le sait. Tes pensées, elles ne lui échappent pas, subhanahu wa ta'ala. Tes intentions, elles ne lui échappent pas. Tout ce que tu as en tête, Allah subhanahu wa ta'ala le sait parfaitement. Il sait ce que tu fais, il sait ce que tu as l'intention de faire. Il sait même ce que tu délaisses. Ce que tu avais l'intention de faire et que tu as délaissé, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Je sais ce que vous divulguez ainsi que ce que vous cachez. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna aux anges de se prosterner pour Adam alayhi salam. Et ce afin de l'honorer et de lui manifester leur respect. Mais aussi afin de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui manifester leur servitude. Donc cette prosternation pour Adam alayhi salam, c'est une manifestation de leur servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala et une manifestation de leur respect pour Adam alayhi salam. Ils se sont donc tous soumis à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'exception de qui? À l'exception d'Iblis. Aba wa stakbar wa kana min al-kafirin. Il refusa de se prosterner. Il fit preuve d'orgueil face à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala car il pensait être supérieur à Adam alayhi salam. Il est nécessaire ici de souligner qu'Iblis n'est pas un ange, mais il fait partie des djinns qui sont créés de feu, alors que les anges, comme vous savez, sont créés de lumière. Malgré cela, cet ordre lui était aussi adressé. Mais Iblis, il cachait en lui la mécréance. Et il fut pris de jalousie à l'égard d'Adam alayhi salam et des grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordées. Son orgueil et sa mécréance l'ont donc poussé à refuser de se soumettre et à s'opposer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, comme on le trouve dans une autre sourate, au verset 75 de sourate Sa'd, « Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday, astakbarta am kunta min al-alin ?»« Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ?»« Qala ana khayrum min, khalaqtani min nar » Il dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Il a fait une analogie, il a pensé que comme il était créé de feu et que Adam alayhi salam était créé d'argile, alors il était meilleur que lui. Et ce refus d'Iblis, c'est donc la conséquence de la mécréance qu'il cachait en lui et de son orgueil. Et à partir de là, son animosité envers Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son animosité envers Adam alayhi salam, sont apparus très clairement, ainsi que sa mécréance et son orgueil. Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'expulsa du paradis et Iblis jura de faire tout son possible pour égarer les hommes du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra dans le cours de demain, insha'Allah ta'ala, comment Iblis a rusé pour faire sortir Adam alayhi salam ainsi que son épouse du paradis, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a mentionné dans les versets suivants. Donc avant de terminer, on va mentionner quelques leçons et quelques enseignements que l'on peut tirer du récit qui nous est mentionné dans ces versets. Premièrement, on voit à travers ce récit la confirmation que la parole est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit dans ce récit qu'Allah parle. Il s'adresse à ses anges, il s'adresse à Adam alayhi salam. Il nous incombe donc de croire avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, et qu'il parle quand il veut. Et qu'il dit ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, au sujet de ce qu'il veut, d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Deuxièmement, on voit à travers ces versets que lorsque tu ignores la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au sujet de certaines de ses créatures ou de ses ordres, il t'incombe tout de même de te soumettre à cela, et de reconnaître ton ignorance. Et tu dois savoir que ta raison, elle a des limites. Car certaines personnes, elles font prédominer leur raison, et rejettent ainsi tout ce qui s'oppose à leur raison faible et déficiente. Même si cela est confirmé dans les textes du Coran et de la Sunna. Et ceci est une grave erreur. Tu dois avoir la certitude que tout ce qu'Allah crée et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, cela est pour une sagesse. Il se peut que tu aies connaissance de cette sagesse, mais il se peut également que tu l'ignores. Et si tu l'ignores, cela ne doit pas t'empêcher à te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, on voit à travers ce récit les bons soins accordés par Allah subhanahu wa ta'ala à ses anges, ainsi que sa bienfaisance à leur égard. En effet, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a vu qu'ils ignoraient la sagesse éminente découlant de la création de Adam alayhi salam, il a enseigné aux anges ce qu'ils ignoraient, et il a attiré leur attention sur cela, afin qu'ils comprennent sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, on voit également à travers ce récit et ces versets le mérite de la science, le mérite du savoir. Et ce, sous plusieurs angles. Tout d'abord, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rappelé à ses anges sa science et sa sagesse. Je sais ce que vous ne savez pas. Également, il leur a fait connaître le mérite de Adam alayhi salam en leur montrant quoi? En leur montrant qu'il détenait une science que eux ne détenaient pas. Et il n'y a pas de doute que la science est la meilleure chose que l'homme puisse acquérir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré aux anges la supériorité de Adam alayhi salam comment? En leur montrant qu'ils détenaient une science que eux ne détenaient pas. Ceci nous montre le mérite de la science. On voit également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam alayhi salam par respect pour lui après quoi? Après que le mérite de sa science soit apparu. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré que Adam alayhi salam savait ce que eux ne savaient pas, il leur a ordonné de se prosterner pour lui par respect pour Adam alayhi salam. En raison de sa science. Donc tout ceci nous montre l'importance de la science, ainsi que son mérite. Et ceci nous pousse à faire des efforts pour l'acquérir. Car comme on a dit, la science est la meilleure chose que l'homme puisse acquérir. La science est bien plus précieuse que l'or et l'argent et l'ensemble des biens vils de ce bas monde. Car la science, elle permet de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître ses noms et ses attributs, de connaître de quelle manière tu dois l'adorer, de quelle manière tu dois accomplir ta prière, de quelle manière tu dois donner ta zakat, accomplir ton jeûne, et ainsi de suite. Donc elle a un grand mérite. Et également, on voit à travers cela l'importance de donner aux gens de science, parmi les savants et les étudiants, leur juste valeur, de reconnaître leur rang. Étant donné qu'ils possèdent cette science, on doit faire preuve de respect à leur égard, ne pas les mépriser, ne pas les rabaisser, mais on leur doit le respect en raison de la science qu'ils ont acquises et qu'ils transmettent aux serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce récit et de ces versets, il y a le mérite de la modestie
et le danger de l'orgueil. Regardez les anges. Ils ont fait preuve de modestie. Lorsque le mérite de Adam a.s. leur est apparu, ils ont reconnu sa supériorité. Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de se prosterner, ils se sont prosternés. Et comme vous le savez, les anges sont parmi les meilleures créatures et les créatures les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Iblis, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enflé d'orgueil. Il a refusé de se prosterner. Il pensait être meilleur que Adam a.s. Quelle fut la conséquence? Il a été banni et expulsé du paradis. On voit donc que l'orgueil est un grave péché qui peut conduire la personne à la mécréance. Donc le musulman, il doit être humble et faire preuve de modestie. Il ne doit pas être orgueilleux, il ne doit pas se sentir supérieur. Mais il doit sans cesse se rappeler qu'il n'est rien, qu'il n'a été créé que d'une goutte d'eau et qu'il finira sous terre, rongé par les vers. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'enjoint un ordre, tu te dois de te soumettre. Ne pense pas que tu es au-dessus de certaines règles parmi les règles de la religion. Mais tu es semblable à tous les autres serviteurs. Et parmi les règles et les fondements de cette religion auxquels tu dois te soumettre, il y a la législation de la prière. Médite sur le fait que Iblis, il a été banni et expulsé du paradis en raison de son refus d'une seule prosternation. Une seule. Alors que dire de celui qui quotidiennement refuse de se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui délaisse ses cinq prières, qui les néglige, qui les fait sortir de leur temps, et qui pense être sur la droiture. Pour une prosternation, le refus de se prosterner une seule fois, Iblis, il a été banni et expulsé du paradis. Alors penses-tu qu'une personne qui cinq fois par jour refuse de se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala peut espérer entrer au paradis? Il n'y a pas de doute que celui qui délaisse la prière est en grand danger et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ceci était donc quelques leçons et quelques enseignements que l'on peut tirer de ce récit. Il n'y a pas de doute que les leçons et les enseignements sont bien plus nombreux, mais on va ici se contenter de cela, inshallah ta'ala, et on continuera demain la suite de ce récit et on verra comment Iblis a rusé pour faire sortir Adam alayhi salam ainsi que son épouse du paradis. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم.